L'heure du journal qui vous est présentée par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Les navettes tournent à plein régime. Le Royaume-Uni a mobilisé 1000 militaires pour donner un coup de main. Les routiers bloqués pour la traversée de la Manche commencent à prendre le chemin du retour. Mais l'obligation de passer un test ralentit considérablement le passage. Le Brexit, ça y est, c'est signé sur le fil et après des négociations épuisantes. L'Europe et le Royaume-Uni ont donc accepté un accord qui leur permettra d'éviter un catastrophique no deal. Chez les pêcheurs français, on pense avoir limité la casse. Chez les étudiants et les chercheurs en Nanterre, les échanges Erasmus avec la Grande-Bretagne. Chez nos voisins, un pays se réjouit, l'Allemagne, qui confirme son leadership en Europe. La grippe aviaire fait son retour en France, 45 départements en alerte et des abattages assez larges pour éviter la propagation. Jean-Luc Mélenchon est le premier à dégainer. Le leader de la France insoumise a lancé sa campagne présidentielle cette semaine à La Réunion. Et puis le dossier de la rédaction, tourisme et pandémie, l'équation impossible. La Thaïlande cherche à reconquérir ses touristes. Le Royaume-Uni a envoyé des troupes supplémentaires à Douvres pour aider à dégager les files de camions et faciliter l'accès aux ferries et participer aussi à la distribution d'eau et de nourriture pour les chauffeurs. 800 soldats britanniques supplémentaires sont donc maintenant déployés dans le port. En plus des 300 envoyés dès le premier jour, le trafic transmanche a pu reprendre hier sous condition de tests Covid négatifs pour les chauffeurs et passagers. Selon le ministère anglais des Transports, plus de 10 000 tests ont été effectués, 24 seulement positifs. Hier, 1000 poids lourds ont pu effectuer la traversée, mais ils sont encore des milliers de routiers à attendre de pouvoir rentrer chez eux. Certains stationnés sur la piste d'un ancien aéroport, d'autres directement sur l'autoroute. Grégoire Le Callot.
Bloqué depuis le début de la semaine près du tunnel sous la Manche, sur le parking d'un transporteur anglais, Ludovic Cousin, chauffeur calaisien, a pu passer le test exigé par la France grâce aux militaires britanniques. Il va enfin pouvoir embarquer à bord de l'Eurostar.
Ça fait du bien, on va rentrer, là, pouvoir s'occuper de soi, là, parce que on n'a pas eu les douches avec nous. Hein. Ça fait du bien, si vous voir ta famille. Hein. Ce soir, ils seront à la maison quand je vais rentrer. On sera à quatre pour manger un morceau, puis déballer, rassembler des cadeaux. Hein.
Exceptionnellement, les ferries ont aussi pris la mer un 25 décembre. Ils ramènent des milliers de camions de Douvres. Jean-Marc Puissesseau, patron du port de Calais.
Nous avons passé 1100 camions. Et aujourd'hui, depuis minuit, 700 camions sont arrivés sur le port de Calais. Et nous en prévoyons encore 2000 d'ici la fin de la journée. En tout cas, les traversées continuent et les bateaux sont pleins. Il y a 120 à 130 camions par bateau. Et par jour, on peut acheminer 3500 camions, à peu près 3000 à 3500.
À ce rythme, les autorités françaises et britanniques espèrent un retour à la normale ce week-end.
Tout le monde a gagné. C'est un peu la conclusion des réactions des deux camps après l'accord scellé hier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Côté britannique, Boris Johnson a parlé d'un moment historique, bien loin des doutes qu'il exprimait ces derniers mois sur la nécessité d'un tel accord. Il faut dire qu'en cette fin d'année, il avait vraiment besoin de ça. À Londres, Richard Place.
Boris Johnson, grand sourire et les deux pouces levés, il ne se prive pas de célébrer aujourd'hui. Comme tout chef d'État en 2020, il essaie d'endiguer un virus tenace, mais il s'y est pris trop tard et compte près de 70 000 morts dans le royaume. Sa gestion chaotique n'a rien arrangé, ses changements d'avis fréquents ont déboussolé jusque dans sa majorité. Il voulait éviter une crise économique, il la prend de plein fouet. La restauration, l'hôtellerie, les commerces, tous ces secteurs appellent à l'aide. Politiquement, les restrictions sanitaires géographiquement différenciées ont réveillé un fort sentiment anticonservateur dans le nord de l'Angleterre. Dans les sondages nationaux, les travaillistes sont revenus à la hauteur du camp Bojo. Il a limogé récemment son plus proche conseiller Dominic Cummings, l'architecte du Brexit, après l'avoir surprotégé. Johnson a lui-même été malade en début d'année. À la rentrée, certains journaux le décrivaient ici fatigué, affaibli, prêt à passer la main. Alors oui, aujourd'hui, il fanfaronne pour un accord dont il disait il y a peu qu'il n'était pas essentiel.
Richard Place à Londres. Le Brexit ne fait pas forcément que des malheureux et après l'accord trouvé hier, il y a peut-être un pays qui n'est pas si mécontent. C'est l'Allemagne qui renforce ainsi sa place de leader européen. À Berlin, on retrouve Ludovic Piétenu.
En l'absence de Londres, Berlin devient la plus grande ville du continent, la capitale du pays le plus peuplé des 27 et de la première économie européenne. Indéniablement, avec le Brexit, le centre de gravité de l'Europe se décale à l'Est, ce qui explique pourquoi la chancelière allemande, après cet accord, s'est déclarée très confiante. « Nous avons ici un bon résultat », dit Angela Merkel, qui donnera lundi la position officielle de son gouvernement après avoir pris le temps d'étudier les 1500 pages de l'accord. Mais elle ajoute déjà « Le Royaume-Uni continuera d'être un partenaire partenaire important pour l'Allemagne. C'est une évidence. Si on compare tous les voisins, ce sont les économies de ces deux pays qui sont les plus imbriquées. Le pire pour l'économie allemande a donc été évité avec cet accord zéro droit de douane, zéro quota, selon bon nombre d'observateurs ici à Berlin. Ce ne sera pas aussi fluide qu'avant, disent-ils, c'est certain, mais il n'y a aucune raison que l'Allemagne perde sa première place dans les produits importés au Royaume-Uni. L'automobile, les machines, les produits pharmaceutiques et la chimie, l'électronique et l'optique, tant de produits made in Germany qui continueront d'inonder l'île. De son côté, Londres continuera de vendre sa spécialité, des services dont les entreprises allemandes ne peuvent quasiment plus passer pour augmenter leur part de marché et vendre leurs marchandises aux consommateurs européens. Et même dans une relation différente à l'avenir, les services sont plus faciles à échanger que des produits agricoles. L'Allemagne s'en sort bien, pourrait même sortir dans une position assez hégémonique en Europe. Toute la question est de savoir ce qu'elle en fera.
Ludovic Piétenu à Berlin. Avec le Brexit, Boris Johnson a abandonné le programme Erasmus, le programme européen d'échange pour les étudiants. Le Premier ministre britannique invoque des questions de coûts et annonce en remplacement un autre programme mondial. Soulignant qu'il s'est agi d'une décision difficile, Boris Johnson a expliqué que s'il était une chose merveilleuse d'accueillir tant d'étudiants européens, le programme était extrêmement cher pour le Royaume-Uni. Cet arrêt des échanges touche les étudiants de nombreuses universités, mais aussi les chercheurs européens. Juliette Pietaszewski.
Le plus marquant, c'est surtout pour les étudiants. Bien sûr, il n'y aura pas d'arrêt brutal des échanges début 2021 avec la Grande-Bretagne, mais c'est une fin qui est tout de même annoncée pour l'été 2022. Laure Coudrello, directrice de l'agence Erasmus+ France, s'inquiète. Sans son programme, les étudiants ne seront pas tous égaux pour financer une année ou un semestre d'études en Grande-Bretagne.
Ça va être le coût des universités britanniques, vous savez, qui est très élevé. C'est très variable. Les universités ont des droits d'inscription qui sont très très différents. Ça va réduire la possibilité pour des jeunes pas forcément fortunés que d'aller faire des études au Royaume-Uni.
La fin annoncée d'Erasmus avec le Royaume-Uni marque aussi de nouvelles difficultés pour les enseignants-chercheurs, notamment pour des projets communs. Claudia Sempel, directrice de relations internationales à Burgundy School of Business, école de commerce à Dijon.
On envoyait régulièrement des professeurs sur une durée d'une semaine. Ça s'appelle donc un échange Erasmus pour les enseignants-chercheurs, pour enseigner une semaine là-bas. Ça permet, d'enseigner à l'étranger, donc d'avoir d'autres expériences en termes d'enseignement. Et c'est financé donc par Erasmus pour le déplacement du professeur. Et d'un autre côté, ça permet aussi de travailler sur son réseau à l'international pour justement avoir des contacts avec d'autres enseignants-chercheurs pour travailler ensemble sur des articles, sur des projets. Et ça ne va plus être possible parce que ça ne sera plus financé.
Les universités britanniques viennent, elles, de demander au gouvernement britannique plus d'informations sur son projet de remplacement au programme Erasmus.
Juliette Pietraszewski. En Angleterre, il y avait aussi aujourd'hui le discours de Noël de la reine d'Angleterre à l'heure du thé. Elisabeth II, qui a renoncé à se rendre dans sa résidence de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, où elle a passé Noël en famille chaque année depuis plus de 30 ans. Elle est restée au château de Windsor, près de Londres, en compagnie unique de son mari, le prince Philippe. La souveraine aurait dû prononcer son discours hier, le soir de Noël, mais elle s'est effacée devant toutes les annonces attendues dans tout le pays sur le Brexit. Elle n'y a pas fait la moindre allusion dans son discours. Elle s'est concentrée sur l'épidémie de Covid. La souveraine, qui a rendu un hommage appuyé au personnel du service de santé britannique, est tentée à sa façon d'insuffler un peu d'espoir dans cette période difficile, Élise Delève.
L'espoir, l'espoir. Dans son message de 10 minutes à peine, la reine d'Angleterre ne cesse de répéter ce mot. Depuis le château de Windsor, la souveraine tente de rassurer les Britanniques. Même dans les nuits les plus sombres, il y a une lueur d'espoir. Sur le bureau de la reine, une seule photo, contre des dizaines en temps normal. Seule l'image de Philippe, son mari, l'accompagne. C'est la première fois en 30 ans que la souveraine passe Noël seule, sans ses proches. Oui, ce Noël n'est pas comme d'habitude, mais Elisabeth II, 94 ans, le dit d'une voix réconfortante. Vous n'êtes pas seule.
Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, cette fin d'année sera teintée de tristesse. Certains pleurent leurs proches, disparus. D'autres souffrent de l'absence de leurs amis et de leur famille, éloignés par mesure de sécurité, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est un câlin ou une poignée de main. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Soyez assurés de mes pensées et de mes prières.
Elisabeth II rend hommage au personnel soignant en première ligne contre l'épidémie de Covid qui a fait 70 000 morts au Royaume-Uni. La chorale du NHS, service public de santé britannique, clôt le message devant un sapin en tenue d'infirmier, une bougie à la main.
La reine d'Angleterre, 94 ans, toujours pilier de la nation britannique. En France, 45 départements placés en risque élevé de grippe aviaire. Il s'agit d'éviter à tout prix la propagation du virus H5N8. 40 000 canards et volailles sont en cours d'abattage en Chalosse, dans un rayon de 3 km autour des deux foyers déclarés. La stratégie appliquée jusqu'à maintenant consistait à abattre les animaux en cas de suspicion de grippe aviaire. Là, on passe à l'étape d'après. Tous les élevages, même sains, vont être concernés. 25 sont recensés après l'épisode de 2016-2017. C'est un nouveau gros traumatisme pour les producteurs, même s'il n'était pas possible, disent-ils, de faire autrement. Marie-Hélène Cazobon est éleveuse de canards à Montoussé et présidente de la Chambre d'agriculture des Landes.
C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, d'avoir des animaux qui sont éliminés. Maintenant, on est dans vraiment de la prévention et on veut aller plus vite que le virus. Donc le virus est présent sur le territoire, surtout sur ces zones-là. Et le fait de faire une barrière sanitaire en éliminant les animaux qui sont dans un rayon de 3 km autour des foyers qui avaient été détectés permettra, c'est ce que nous espérons et qui a de grandes chances d'aboutir, permettra vraiment d'éviter une diffusion du virus au-delà de ces zones-là. Pour les producteurs qui sont concernés, ça va être très très dur à vivre. Tout est fait pour que la MSA, les services de l'État, tout le monde soit à leur côté pour pouvoir vraiment travailler et les accompagner à traverser ces épreuves.
Marie-Hélène Cazobon, présidente de la Chambre d'agriculture des Landes, avec Camille Descroix. En politique, il ne prend peut-être pas de vacances. Noël, Jean-Luc Mélenchon l'a passé loin des siens. Sur l'île de la Réunion, le chef de file de la France insoumise a entamé son premier déplacement de campagne présidentielle dans un département acquis à la cause des insoumis. Pierre Neveu.
C'est devenu un rite politique. Jean-Luc Mélenchon ne saurait entrer en campagne sans passer par la Réunion. Sur cette terre qui, à la présidentielle de 2017, l'a porté en tête des suffrages, juste devant Marine Le Pen, avec plus de 24% des voix. Pour son cinquième déplacement dans l'île, le député des Bouches-du-Rhône est venu célébrer l'esprit d'insoumission des esclaves à l'occasion de la célébration de la fête CAF, la proclamation de l'abolition de l'esclavage. Mais il a surtout défendu ce qui sera l'un de ses thèmes de campagne dans sa course à l'Élysée, la lutte contre la pauvreté, une pauvreté qui explose avec la crise sanitaire du Covid. Elle touche 10 millions de personnes en France et plus localement 40% de la population réunionnaise. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon cible les politiques libérales. Il prône l'entraide, le partage du travail et des richesses, l'accès à l'eau et à l'électricité. Un message politique destiné à rassembler la gauche de la gauche et qui pourrait séduire les communistes, même si Fabien Roussel imagine une candidature autonome pour cette présidentielle et surtout en cette année du centenaire du Parti communiste français. Reste que l'espace politique s'est considérablement réduit à gauche depuis les dernières élections européennes et municipales qui ont consacré la percée des écologistes et confirmé les implantations locales du Parti socialiste.
À l'étranger, de très gros dégâts à Nashville aux États-Unis avec l'explosion d'une voiture en centre-ville. Des arbres ont été arrachés, deux voitures ont pris feu. La police locale parle d'un acte intentionnel mais sans revendication. Pour l'instant, il n'y a pas eu de victimes. Les États-Unis, où le plan de relance de l'économie américaine est désormais sur le bureau de Donald Trump, mais le président ne parafe toujours pas. C'est aussi la confusion chez les républicains. Ils ont voulu bloquer l'amendement qui augmente l'allocation aux personnes les plus vulnérables. Augmentation demandée pourtant par Donald Trump. En Centrafrique, la rupture du cessez-le-feu, la coalition de groupes armés qui se sont alliés contre le gouvernement en place l'a annoncé aujourd'hui. Elle casse la trêve de 72 heures et reprend sa marche vers Bangui. Des combats ont recommencé à Bakouma, 250 km de la capitale. Au Mali, pris en otage pendant 6 mois par un groupe djihadiste, il avait été libéré il y a moins de 3 mois, en même temps que la Française Sophie Pétronin. L'homme politique malien et opposant Soumaïla Cissé, 71 ans, est mort à Paris des suites du coronavirus. C'était une figure majeure de la politique malienne avec une carrière politique de près de 40 ans. À Bamako, Kaourou Magassa.
Le décès brutal ce matin à Paris de Soumaïla Cissé, figure de l'opposition malienne, est vécu comme un choc. Acteurs politiques et militants de son parti sont venus lui rendre un dernier hommage. Maître Amadou Alousseni Touré, son beau-frère, est inconsolable.
Il a survécu à 6 mois de détention, de sable, de soif, de plaies. Il a supporté tout ça et voilà que c'est le Covid dont il entendait parler, mais qu'il n'avait jamais vu de proche ou de personne qui en était atteinte. Malheureusement, c'est lui qui paye le prix.
Ancien otage, sa libération était vue comme un nouvel élan pour les membres de la deuxième force politique du pays. Au terme de la transition annoncée pour mars 2022, des élections doivent se tenir. Sélikou Sanogo est le premier vice-président de l'Union pour la République et la démocratie.
Les grandes batailles électorales sont en vue. Et bien entendu, Ismaïla Cissé a été une pièce maîtresse dans ce combat-là. Et maintenant qu'il est parti, alors nous sommes dans une position extrêmement, extrêmement difficile.
Aucune date n'a encore été annoncée pour les funérailles. Le rapatriement de la dépouille de Soumaïla Cissé devrait intervenir dans les prochaines heures ou prochains jours en provenance de Paris.
Une nouvelle attaque de Boko Haram au Nigeria. Hier, à la veille de Noël, les djihadistes s'en sont pris à un village chrétien du nord-est du pays, faisant 11 morts. Ils ont aussi enlevé un prêtre, brûlé son église, plusieurs maisons et des dépôts de nourriture du village. Nous avons besoin plus que jamais de fraternité, message de Noël du pape François, le souverain pontife qui appelle notamment les États à partager les vaccins contre la Covid-19. On part en Thaïlande à présent, qui accueillait jusqu'à 40 millions de touristes chaque année. Mais ces touristes, bloqués par la pandémie et les restrictions de vol, manquent à l'appel. Les îles paradisiaques sont désertes, le pays est méconnaissable. Reportage Carole Izou.
Les vagues sur la plage de l'île de Koh Samui sont plus belles que jamais. Mais si l'endroit avait l'habitude d'être pris d'assaut à cette période de l'année, aujourd'hui on y croit surtout des chats et quelques rares habitants. La plupart des employés des hôtels sont rentrés chez eux dans leur village du nord ou en Birmanie, toute proche. En l'absence de toute aide du gouvernement, ceux qui restent doivent se débrouiller pour trouver chaque jour de quoi manger. Tôt le matin, sur les plages désormais désertes, des femmes, protégées par de grands chapeaux, pêchent à la ligne.
Avant, j'étais femme de ménage dans un hôtel, mais il a fermé. C'est difficile, vous savez. Je viens là le matin pour essayer d'attraper quelques poissons. Si j'en attrape assez, je peux même en vendre. Je vis avec ma nièce. Elle travaille comme caissière dans une supérette. Je ne rentre pas au village parce que je suis trop vieille. Il n'y a personne qui m'attend là-bas.
Partout, les rues sont vides, les magasins fermés. Beaucoup des commerçants qui vivaient exclusivement du tourisme craignent que l'île ne se remette jamais de cette crise. C'est le cas de Pichai, un jeune propriétaire d'un bar de plage.
Vous voyez, on est le seul bar ouvert sur la plage. Avant, il y en avait des milliers. Tout le long de la plage, ce ne sont que des hôtels et des resorts. Et là, ils sont tous fermés. Pour les commerçants, je ne pense pas qu'on pourra survivre si on doit vivre ça pendant encore un an. Sans les touristes ici, on ne peut pas survivre.
Jusqu'au mois dernier, le pays était officiellement fermé aux touristes. Il vient de rouvrir, mais avec des conditions très contraignantes. Il faut notamment effectuer à ses frais une quatorzaine dans un hôtel avant de pouvoir se déplacer sous contrôle dans le pays. Pour l'instant, seuls quelques ressortissants chinois ont répondu à l'appel. Le gouvernement thaïlandais a aussi mis en place des campagnes promotionnelles visant à encourager le tourisme domestique. Mais si ces mesures peuvent profiter à certaines villes balnéaires facilement accessibles, les îles, leur style de tourisme destiné aux routards en sac à dos, s'adresse surtout à une clientèle occidentale.
Pour venir ici, il faut faire au moins 3 heures de bateau. Les Thaïs qui ne peuvent venir que pour le week-end n'ont pas le temps. Et même si les touristes chinois reviennent, leur argent ne profite pas aux entreprises locales. Ils ne consomment pas dans les petits établissements locaux. Ils préfèrent les restaurants chinois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs chinois sur l'île, donc ils soutiennent les business chinois. Donc vraiment, dans les îles, on dépend complètement des Européens.
L'annonce d'un vaccin en milieu d'année suscite l'espoir du secteur, mais certains murmurent que plus rien ne sera jamais comme avant. Seuls à vouloir tirer parti de la situation, les écologistes qui soulignent les bénéfices environnementaux de l'arrêt du tourisme de masse et voudraient entraîner certains opérateurs dans une réflexion sur un tourisme plus durable et moins dépendant de l'étranger. Des voix qui restent pour l'instant très minoritaires.
On quitte les îles, retour en France pour une météo calme qui s'annonce pour demain, mais plus grise encore et plus froide selon Météo France. Du Grand Est au Massif Central et aux Pyrénées, temps très couvert une bonne partie de la journée. L'Est et les Pyrénées retrouveront un temps plus sec et lumineux. Ciel dégagé en Méditerranée avec Mistral et Tramontane. Des averses orageuses attendues sur la Corse. Ailleurs, la journée sera calme avec de belles éclaircies en attendant une nouvelle dégradation près de la Manche et de la Belgique. Température minimale de -2 à 7 degrés, des maximales qui auront du mal à atteindre 2 à 7 degrés sur l'est et le sud-ouest, de 7 à 13 degrés de la façade atlantique et le pourtour méditerranéen. 18h.